بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous accepte ce soir pour consacrer un peu de temps pour son dîne, pour étudier une étape importante de la vie de l'homme. C'est justement le départ de ce dunya et le retour vers Allah Azza wa Jal. L'objectif de cette intervention, c'est de savoir comment meurt un croyant et qu'est-ce qui se passe lorsque l'âme quitte le corps et quelles sont les situations de bonheur pour certaines personnes et les grandes situations, des situations de grande détresse pour d'autres personnes. Nous avons donc commencé l'étude du livre de As-Suyuti rahimahullah et il nous reste quelques points on va dire pour compléter ce chapitre. Et ce soir nous voyons un hadith mashhour, un hadith connu rapporté par Imam Ahmad, par Ibn Abi Shayba, par Abu Daoud, par Al-Hakim, par Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim, Al-Bayhaqi. C'est-à-dire beaucoup de narrateurs qui ont donc rapporté ce hadith dans lequel notre prophète alayhi salatu wassalam nous donne une description, mais subhanallah, extrêmement précise de la face, des étapes et de tout ce qui se passe à partir du moment où l'âme du croyant quitte son corps jusqu'à ce qu'il soit posé dans sa tombe, jusqu'à ce qu'il ait été accepté par Allah Azza wa Jal et qu'Allah nous accorde cet honneur et que cette personne ce soit nous, inshallah. Et juste après, le prophète alayhi salat wa sallam explique également la personne qui n'a pas foi en Allah ou la personne qui a vécu dans l'égarement, dans les péchés, comment cette personne quitte ce dunya et quelles sont les conséquences. Et ça nous permet de réfléchir, prendre conscience de ces réalités pour ne pas se laisser aller, parce que des fois nous nous laissons aller réellement. Nous sommes parfois aspirés par les réalités de ce dunya, par les plaisirs de ce monde et par les appels vers les différentes fitnas. Nous sommes dans un monde de fitnas. Jamais le fitna, jamais le péché, jamais l'appel vers le mal, jamais la facilité à accomplir le péché n'a été aussi présente qu'à notre époque. C'est-à-dire que nous vivons des situations d'épreuve que ceux qui ont vécu il y a un siècle, deux siècles ou trois siècles, ils ne pouvaient même pas imaginer. Parfois, entre générations, on se dit, des fois nous on a 40 ans, 45 ans, il y en a qui sont un peu plus jeunes, on se dit mais quel aurait été notre devenir si dans notre jeunesse on avait accès à autant de péchés? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Quel aurait été notre destin? Qu'aurions-nous fait si, lorsque nous avions 15 ans, 16 ans, 17 ans, il y avait autant de moyens d'accès au péché avec les téléphones portables, l'ordinateur, Internet, on n'a pas besoin d'expliquer. Allah seul le sait. Donc on s'est dit d'une certaine façon, alhamdulillah, à notre époque, il n'y avait pas tout ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Dieu seul le sait. On peut dire qu'Allah nous a protégés. Ce qui veut dire que les nouvelles générations sont beaucoup plus exposées. Et c'est là que nous devons nous faire du souci pour nous-mêmes. Pour ceux qui ont 30, 40, 50 ans, qui sont encore en mesure d'avoir tous ces moyens techniques, attention à ne pas rattraper, na'ouz billah, de la mauvaise façon le temps perdu et à plonger vers le haram. Imaginez qu'une personne, je dis quelque chose, je ne veux choquer personne, ni voilà. Imagine qu'une personne vient d'avoir un smartphone ou alors vient d'avoir l'internet à la maison, alors que les gens l'ont depuis longtemps. Et que, na'ouz billah, c'est la première fois que cette personne découvre, je ne vais pas vous choquer, c'est la première fois que cette personne découvre un site pornographique. Une réalité, oui ou non? Mais il y a partout ça. Vous êtes sur des sites ordinaires, vous avez des petites annonces. Bref, si vous n'avez pas suffisamment de programmes, comme on dit, pour bloquer toutes ces publicités, vous êtes envahi, d'accord? Mais imaginez qu'une personne à 40 ans, 50 ans découvre cette porte de péché et que la personne se laisse aller. Na'oud billah, Allah t'a protégé toute ta jeunesse de ce péché, c'est-à-dire que ce n'était pas accessible. Maintenant, c'est devenu un fitna beaucoup plus général, mais attention, ne rattrape pas ce mal et ne fais pas des efforts vers quelque chose pour lequel Allah t'a accordé la protection. Donc, on doit se faire attention à nous-mêmes et surtout se faire du souci pour nos enfants, subhanallah, parce qu'ils sont en train de grandir dans un monde que nous n'imaginons pas. Alors, je pense que quand les portes du lycée se ferment, Dieu seul sait qu'est-ce qui se passe réellement. Enfin, on ne va pas extrapoler, mais je veux dire, les relations garçon-fils, il y a une telle, on va dire, voilà, une telle ouverture d'esprit, na'ouz billah, où la notion même d'adultère, de zina, est devenue un mot archaïque. Utiliser le mot adultère dans une rédaction, dans un commentaire texte, on va dire que non, ça c'est du vieux français. Personne ne parle plus d'adultère, d'accord? On voit même dans certains textes de loi, enfin, je ne vais pas faire de politique, mais on dit le libertinage sera toujours autorisé. Ça veut dire que c'est entré dans les mœurs, ça. Tout ça, cette na'ud billah, on parle d'émancipation de la sexualité, ainsi de suite. La hawla wa la quwwata illa billah, on doit faire très attention pour nos enfants. On doit vraiment maintenir le cap à la maison et leur donner la bonne éducation et que nous-mêmes, nous soyons assidus aux bonnes œuvres, éloignés des péchés en tant que qa'id, en tant que guide, d'accord ? Et que nous soyons sincères envers Allah pour qu'Allah ait pitié de nos enfants. Et lever les mains dans les derniers tiers de l'année, demander à Allah protection. Parce que vous savez, je pense que nous avons tous des cas autour de nous où on a parfois des parents qui sont religieux, parfois peut-être même des alims, des savants et tout, et ils ont toujours instauré un cadre très religieux à la maison, avec un... voilà quoi, ils ont fait tout pour que le fitna, parfois même pas de télé, ainsi de suite, pour que le fitna n'entre pas dans la maison. Mais à un moment donné, vos enfants ne sont plus dans vos mains. À un moment donné, vous perdez contrôle. Et Allah seul sait, comme je dis, quand les portes du collège, du lycée se ferment, quels sont les fitnas et quelles sont surtout les fréquentations, les mauvaises fréquentations. Parce que tout ce que nous, on a essayé d'apporter pour nos enfants, ben, lorsqu'ils se retrouvent dans un cercle d'amis avec 5-6 personnes qui parlent tous d'un haram, même si à la maison on a le bon discours, ça reste un jeune influençable et parfois par esprit de clan, comme on dit, pour montrer son appartenance à un groupe, il n'hésiterait pas à faire un pas na'oud billah vers ce qui est interdit. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. C'est tout simplement la hidayah. Ça, c'est la guidée, ça. Et la guidée, elle est dans les mains d'Allah. Donc, faire le maximum en termes d'éducation, de tarbiyah. Et puis, faire doua, s'en remettre à Allah, demander à Allah protection pour nos enfants. Parce qu'ils grandissent, je répète, dans un monde entouré de fitna. Donc, ikhwan et fillah, enfin, on s'est un petit peu éparpillé, ce n'était pas le but. Mais je ne sais pas pourquoi on est parti aussi loin. Subhanallah, mais c'est préoccupant. Tout ça, c'est préoccupant. On disait que, je ne sais plus, comment, hein? Comment la mauvaise, voilà, la personne qui était dans le péché, exactement, barakallahu fik. Des fois, on se laisse aller à l'appel vers le mal, d'accord? On peut être un jeune homme séduisant, comme Junaid, séduisant. La barbe est séduisante aussi. Et avoir, comme on dit, la cote, du succès auprès des femmes. Et ben, cette personne ben, se laisse aller au zina. Voilà, une relation d'une semaine avec telle personne, une semaine. Et la personne se complaît dans cette situation et a l'impression de vivre, na'oud billah, j'utilise des termes avec beaucoup de pudeur, de vivre sa sexualité comme un homme du 21e siècle, avec une ouverture d'esprit. Mais le plaisir que cette personne est en train de prendre dans ce genre de péché, la prise de conscience, c'est, ne doit pas avoir lieu au moment de mourir, c'est trop tard déjà. Mais si on étudie les textes, comment l'hypocrite ou la pénalité de le péché, comment la personne quitte ce dunya avec cet avilissement et ces situations difficiles, peut-être qu'on peut prendre conscience que réellement, ce dunya, c'est matar, ce sont des biens éphémères, et tout ça n'est qu'appel vers le mal. On lit donc ce hadith de Al-Barra bin Azib, radiallahu anhu, qu'il a dit, مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. Le prophète عليه الصلاة والسلام. Non, les sahaba rapportent que nous étions avec le prophète عليه الصلاة والسلام et nous revenions de l'enterrement d'un Ansar. Ansar. C'est pas monsieur tout le monde. C'est les Ansar, ils sont, c'est les gens de Mecca ou de Medina? Medina. Et comment on appelle les gens de Mecca? Les gens de Mecca? Les Muhajirin. Les Muhajirun, les Muhajirin. Donc, ils étaient, on peut imaginer que c'était Al-Baqi'a, Wallahu A'lam, et ils venaient d'enterrer un sahaba parmi les gens de Madina. Et on trouve le hadith. Fantahayna ila al-qabr, nous étions proches de la tombe, et le prophète alayhi salatu wassalam était assis. Et il dit qu'il y a une belle expression en arabe, وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُسِنَا الطَّيْرُ. C'est une métaphore, c'est comme s'il y avait des oiseaux posés sur nos têtes. C'est vrai qu'en arabe, il y a une langue très imagée. Ça veut dire que personne ne bougeait. Le prophète était immobile, à un tel point comme si que des oiseaux pouvaient se percher sur eux, tellement ils étaient immobiles. Et le sahaba était immobile avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il avait dans sa main un morceau de bois, un bâton avec lequel il faisait donc il faisait des marques sur le sol. Et à un moment donné, le prophète alayhi salatu wassalam a levé la tête et a dit au sahaba, Ista'idhu billahi min azab al-qabri. Demandez toujours à Allah protection contre les châtiments de la tombe. Il l'a dit deux fois ou il l'a dit trois fois. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a donné des explications. Sachez ô sahaba que inna al-abd al-mu'mina. Sachez que lorsque le croyant pieux, le croyant qui est de le droit chemin, idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah, lorsque cette personne est en train de vivre ses derniers instants de ce dunya et que son parcours de l'au-delà, il est dans la phase intermédiaire où il va commencer maintenant à prendre le départ vers l'autre monde. Nazala ilayhi malaikatum min as-samaa, des anges descendent des cieux pour venir le rencontrer. Le rencontrer pourquoi ? Pour reprendre son âme. Et là on parle du mu'min qui est le droit chemin et ses anges ont le visage lumineux, bidul wujuh. C'est comme si que leur visage était comme le soleil. Le visage est aussi illuminé et brillant que le soleil. Et ils amènent avec eux akfanun min al-jannah, des kafan, des linceuls, des tissus qui viennent du jannah. Bien, ce sont des choses que nous ne voyons pas. D'accord? Mais ce sont des rêves, c'est exactement ce qui se passe. Et ils amènent également hanout min hanout al-jannah, comme nous on utilise du camphre et des parfums pour le défunt. Ils amènent des parfums qui viennent du paradis, hatta yajlisu minhu mudd al-basar, jusqu'à ce que ces anges s'assoient auprès du défunt, et ils sont tellement nombreux qu'ils s'assoient jusqu'à perte de vue. Et dans d'autres hadiths qui sont un petit peu moins authentiques, mais on retrouve le nombre de 500 anges, de 500 malaïkas qui descendent des cieux, et ces anges précèdent qui ? L'ange de la mort. Ils viennent avant Malik al-Maut. D'accord ? C'est le cortège qui précède l'ange de la mort. Thumma yaji, et ensuite vient l'ange de la mort, et il s'assoit auprès de cette personne qui va mourir, et l'ange de la mort dit « Ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwan » et l'ange de la mort s'adresse à lui avec des termes, mashallah, remplis, on va dire, de bienveillance, que âme tranquille, apaisée, tu peux maintenant sortir et retrouver le pardon de ton Seigneur, ainsi que sa satisfaction. Fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min as-siqa, et l'âme sort avec facilité, exactement comme l'eau coule d'une fontaine. Maintenant, parenthèse, les savants, dans d'autres hadiths, rappellent que le moment où l'âme quitte le corps est un moment extrêmement, extrêmement douloureux. Mais pourquoi le hadith stipule que l'âme sort avec facilité ? C'est par opposition à l'âme de celui qui n'a pas la ilaha illallah. Parce que cette âme-là ne veut pas sortir. Enfin, on ne va pas en voiter le pain, mais l'âme se cache de le corps jusqu'à ce que les anges obligent le ruh à sortir. Alors que pour le croyant, certes, ça ne va pas, ce n'est pas en désaccord avec le fait que le sakaratul maut, c'est quelque chose. Non, difficile, aucunement. C'est-à-dire que l'âme est d'accord pour sortir. L'âme accepte ce qui est prévu et l'âme est prête à sortir. Mais bien sûr, lorsque l'âme sort, c'est une situation extrêmement douloureuse, comme on a eu l'occasion dans d'autres chapitres avant de l'expliquer. Et donc, le prophète alayhi salam donne ses explications. Il dit qu'ensuite, l'ange récupère le ruh, l'âme de cette personne, et cette âme reste dans leurs mains, et même pas une fraction de seconde, l'âme est redéposée. Les anges le gardent précieusement. Cette âme, c'est qui ? C'est nous, hein ? C'est nous, c'est notre personne. Parce que là, l'enveloppe corporelle est sur TAC, ce n'est qu'un corps, mais l'âme, c'est ce qui nous constitue, nous. فَيَخْرُجُ مِنْهَا, et ensuite les anges vont transporter ce ruh, cette âme dont ils ont eu la mission de récupérer ce dunya, et le parfum qui se dégage de ce ruh, c'est un musc, c'est comme l'odeur, le parfum du musc, mais quelque chose qu'on ne peut même pas, on ne peut même pas imaginer, tellement c'est quelque chose de magnifique. Bien sûr, on parle de parfum du jannah, du paradis.
Et lorsque l'âme passe dans un endroit, chaque créature aurait pu sentir cette odeur exceptionnelle. Et ensuite commence As-Su'ud. As-Su'ud, c'est lorsque l'âme quitte ce dunya et va maintenant monter en compagnie des malaïka, en compagnie des anges. فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. Et à chaque fois que le cortège de malaïka qui porte ce roi, cette âme, passe auprès d'autres groupes d'anges, parce que dans ce dunya, dans le ciel, dans les cieux intermédiaires, des centaines, des milliers de malaïka, Allah seul sait combien il y en a. Les anges interrogent, mais à qui appartient ? D'où vient ce parfum ? Et qui est ce roi, cette âme qui est exceptionnelle ? Et là, fayaqulun, fulan ibn fulan. Ils disent que c'est un tel, fils d'un tel. Et là, en commentaire, les savants disent que soyez de ceux dont les noms seront proclamés auprès des anges, que ça c'est Mohammed, fils de Abdallah. Ça c'est Ishaq, fils de Ibrahim. Et les anges vont savoir que c'est l'âme de telle personne, de telle personne, de telle personne, et ils seront contents que c'est une âme qui, mashallah, est sortie de ce corps, qui rejoint Allah, et c'est une âme qui est maintenant heureuse. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, alhamdoulilah, c'est terminé. Les difficultés de ce dunya sont terminées, et c'est un ruh qui va connaître, mashallah, bonheur, et à chaque étape, chaque étape qui va suivre, ce seront des étapes de grand bonheur. Naam. بِأَحْسَنِ أَسْمَاهِ en citant les noms les plus nobles que la personne avait et par lesquels les gens l'appelaient dans ce dunya. حَتَّى يَنْتَهُ بِهَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا. Ça, c'est l'étape de ce dunya jusqu'au premier ciel. C'est-à-dire là, déjà, ils ont rencontré quantité de malaïka. Comme l'a dit Allah seul, c'est le nombre d'anges qui a les anges chargés de la pluie, les anges chargés du vent, des nuages, ceux qui amènent la subsistance. C'est des mondes qui nous entourent dont nous n'avons aucunement conscience. Mais nous savons que ça existe. Et ça découle de la foi en Al-Iman bil Malaika. Hein, important. On continue. Et vous savez, croire aux anges, des fois on se dit que bon, ben ça c'est pas grand chose et tout, on peut raconter ça aux enfants pour qu'ils fassent de beaux rêves. Non, c'est pas que ça. Du moment que la personne développe iman bil malaika, assurément la personne arrête de faire des péchés. Parce que quand on a pris conscience qu'on a des anges qui sont là et qu'on a les anges qui sont à droite, qui sont à gauche, qui écrivent les actions bonnes et mauvaises, ça on connaît, mais peut-être qu'on ne sait pas qu'il y a deux groupes d'anges qui se relaient matin et soir, des anges qui observent et qui vont relayer, qui vont rapporter qu'est-ce que la personne a fait le matin, qu'est-ce que la personne a fait le soir. Ben, peut-être que lorsqu'une personne maintenant se retrouve dans l'obscurité de la nuit ou alors dans une chambre, comme on avait dit les exemples tout à l'heure, et que la personne a accès au haram, et peut-être qu'en prenant conscience que les anges sont réellement présents, la personne réfléchira à deux fois et se rendra compte que finalement on n'est pas seul, ça n'existe pas que personne ne me voit, il y a Allah qui me voit bien sûr, mais les intermédiaires sont les anges qui inscrivent les actions. On va pas être trop long. Où est-ce qu'on est ? Ensuite, là, ils arrivent donc au Sama Ad-Dunya. Qu'est-ce qu'on appelle le Sama Ad-Dunya ? Il y a le mot Sama qui veut dire ciel, et Dunya, on a compris, c'est le premier ciel, d'accord ? Premier ciel que je pense qu'aucun être humain ne pourra atteindre, d'accord ? Quel que soit leur fusée, leur vaisseau, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont créer, mais ce n'est pas prévu que l'homme atteigne la limite, parce que ça, c'est le monde de l'invisible. On continue. Subhanallah, là, on voit le tartib d'Allah. Fayastaftihuna lahu. Istaftaha, on connaît le fataha, je viens de faire rame à l'école. Fataha, ça veut dire quoi? Pas faire rame à l'école? Hafizam? Fataha, ouvrir, d'accord? Et istaftaha, on passe sur le groupe 10, le sham numéro 10, ça s'appelle istafa'la, ay talabu shay, demander quelque chose. Il demande ijaza. Les anges demandent ijaza aux gardiens du premier ciel. Parce qu'à chaque ciel, et ça, tout le monde a entendu de le voyage nocturne, qu'à chaque ciel, lorsqu'il montait avec le prophète Ali, il demandait l'autorisation pour accéder au premier ciel et ainsi de suite. D'accord ? Donc, il demande l'autorisation, fayuftahu lahum. Et l'autorisation leur est accordée et ils peuvent accéder au premier ciel. D'accord ? Et là, les muqarribun, les anges, certains anges de ces cieux, eux aussi, accompagnent ce cortège de malaïka jusqu'au prochain ciel. Et à chaque fois, les anges s'exclament et sont heureux d'accueillir ce ruh jusqu'à ce que, on va aller un peu plus vite, jusqu'à ce qu'ils arrivent au septième ciel. Fayaqulu Allahu ta'ala, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin, inscrivez le livret de mon serviteur dans le 'illiyyin, dans les plus hauts degrés. Wa a'iduhu ila al-ardi. Et ensuite, l'âme, Allah demande à ce que l'âme retourne sur terre. Alors là, il faut bien comprendre. Il y a le décès, il y a l'âme qui sort, il ne va pas dans la tombe tout de suite. Il y a l'âme qui monte au ciel. Après, combien de temps ça prend? Allah seul le sait. Là, on ne peut pas dire que ça prend 10 secondes. Attention, on ne dépasse pas le temps parce que mais la besoin enterrée, ça c'est un autre monde, ça. Ça, c'est un monde parallèle où il n'y a pas la notion de temps. C'est l'éternité. Donc l'âme monte jusqu'au ciel, jusqu'au trône d'Allah Azza wa Jal. On parle de l'âme du croyant. Ensuite, l'âme retourne sous terre. Et c'est là que l'âme réintègre le corps. Et là, c'est là qu'il y a les questions des anges. Et de notre côté, ça peut prendre du temps. Quand on fait le roussal d'un mayet, ça prend combien de temps? Le temps de récupérer le corps, ça peut prendre 2 heures, 3 heures, 5 heures, jusqu'à ce qu'on enterre. Après, ça dépend à quel rythme on fait. Mais qu'on prenne 1 heure de temps, 2 heures de temps, 1 journée, 2 journées, ou je ne sais pas, si ça se fait en 10, 15 minutes, cette étape, elle a lieu. Et ça ne dépend pas de ce que nous faisons. Parce que ce sont deux mondes qui sont totalement décalés. Il n'y a pas de relation entre ces deux mondes. Ce n'est pas parce qu'il y a ça, qu'il n'y aura pas ça, aucunement. D'accord? C'est comme les exemples qu'une personne qui meurt et qui la protège, mais la personne meurt dans un accident ou, imagine un accident d'avion et que le corps est éparpillé. Comment est-ce que le corps est rassemblé? Ce sont des choses que, c'est pas parce que de se donner à ça fonctionne d'une certaine façon que ça bloquera une étape de l'au-delà. Les étapes de l'au-delà auront lieu là, mahala, sans le moindre doute. On continue. Et donc, l'âme retourne dans de le corps, il retourne donc sur terre. Fatwa'ad ruhuhu fi jasadihi, et donc l'âme maintenant réintègre le corps. Fayatihi malakan, et là dans la tombe, là le corps est déjà enterré, là les anges viennent et fayujlisa ajlasa yujlis, ils le font asseoir. Alors Junaid se dit que assise, dans ce cas il aurait fallu prévenir le vin depuis le départ qu'il faut mettre un petit tabouret. Ou alors, il ne faut pas faire la tombe serrée, il fallait laisser 1m50. Comment il fait assise, Ali, là? Non, ce n'est pas notre problème, ça. C'est une preuve. Le fait que le prophète le dise, que les anges le font, le mettre en position assis, ça nous permet de comprendre qu'il n'y a pas de contradiction. Ce sont des mondes qui sont parallèles et donc qui ne se rejoignent pas. Il n'y a pas une logique humaine que voilà, si le kabar est comme ça, avec les planches juste à ce niveau et que s'enterrer, il ne peut pas s'asseoir, il s'assoit. Parce que ça se déroule dans un monde parallèle, dans le monde de l'au-delà. Et là, les anges posent les questions. Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Et le croyant, Allahumma ja'alna minhum, dira Rabbi Allah. Maintenant, est-ce que c'est une leçon apprise par cœur? Non, c'est pas ça. Est-ce que, si on dit aux enfants, si Benzan, de manière aussi que Dieu dit c'est Allah, apprends le sabbat, d'accord? C'est pas un sabbat qu'on apprend. C'est quelque chose qui sort du cœur. Parce que le munafiq, l'hypocrite, ne pourra pas le dire. Le munafiq, l'hypocrite ne pourra pas le dire parce que ce n'est pas quelque chose qui était présent dans son cœur. C'est pour ça qu'il faut être sincère. Fais en sorte que ce cœur-là aime Allah et ce cœur bat pour Allah, mais que vraiment notre vie est orientée autour de l'adoration d'Allah, Azza wa Jal. On va s'arrêter là parce que c'est encore un peu long et je pense qu'on a pris pas mal de temps et tout le monde a chaud aussi apparemment. On va s'arrêter là, Inch'Allah. C'était censé être le dernier cours de ce livre parce que voilà, il y a l'autre partie du hadith concernant celui qui est dans le mauvais chemin. Je pense que peut-être, Inch'Allah, avant le mois de janvier, on pourra refaire un darj dessus. Donc là, on voit que là, les anges vont lui poser les questions. Et là, on voit comment il va répondre. Et qu'est-ce qui se passe après avoir répondu aux questions? C'est le début des na'im, des plaisirs de ce dunya. Qu'Allah, Azza wa Jalla, nous permet de comprendre ces quelques paroles. Et que cela pénètre nos cœurs. Et qu'Allah, Rabbul Izzah, nous permet de vivre de ce dunya avec l'islam, soumission à Allah, Rabbul Izzah. Et que, Inch'Allah, nous soyons parmi ces personnes qui reçoivent la bonne nouvelle du Jannah de la part des Malaïka lorsqu'ils viendront reprendre nos rouhs. Et qu'Allah Azza wa Jal déverse sa clémence et sa miséricorde sur toutes les personnes qui nous ont quittés. Que la tombe de chaque croyant soit rawdatun min riyad al-Jannah, un jardin parmi les jardins du paradis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil izzati amma yasifun.